Bonjour à tous. À la une, le paradoxe anglais, explosion des cas de Covid outre-Manche. Et pourtant, la plupart des restrictions sanitaires sont levées en Angleterre depuis minuit. Alors les Londoniens renoncent-ils vraiment au masque ? Nous serons dans la capitale britannique dès le début de ce journal. En France, toute autre ambiance. Semaine marathon pour l'adoption de la loi sur l'extension du pass sanitaire. Conseil des ministres ce soir et bataille parlementaire à venir. Vous l'entendrez, l'opposition peaufine ses amendements. Les restaurateurs se demandent comment vont se passer les contrôles de ce pass et les laboratoires médicaux s'inquiètent. Faut-il s'attendre à une multiplication des tests pour les non-vaccinés cet été ? Le patron du syndicat des biologistes est l'invité du 13h. Dans ce journal également, appel à témoins dans les Alpes-Maritimes pour retrouver un homme armé et dangereux. Pegasus, la suite de nos révélations sur ce logiciel qui a servi à espionner dissidents et journalistes, notamment en Hongrie, au cœur de l'Union européenne. Et puis le soleil, de retour partout, du nord au sud, enfin un air de vacances sur toute la France.
France Inter, le 13-14.
C'est un pari risqué, voire un saut dans l'inconnu qu'expérimente l'Angleterre depuis ce matin. 50 000 contaminations au Covid chaque jour, peut-être 100 000 dans les prochaines semaines selon les médecins. Et pourtant, plus ou presque plus de restrictions sanitaires. C'est le Freedom Day, jour de la liberté, comme on l'appelle outre-Manche. Salles de spectacle et stades ouverts à pleine capacité. Et surtout, depuis minuit, le port du masque est devenu facultatif, y compris à l'intérieur, notamment en boîte de nuit. Richard Place est à Londres pour France Inter.
Ils ont attendu des mois. Des files d'attente se sont formées avant minuit devant les discothèques qui rouvraient. Une nuit de fête, sans masque, sans distanciation, collés les uns aux autres, comme au bon vieux temps d'avant Covid. Ces images, Brian les a vues ce matin et ce retraité londonien est atterré.
C'est prématuré, les contaminations ne cessent d'augmenter, c'est irresponsable. Je garde mes distances, je porte le masque dans les magasins. J'aimerais croire que tous les citoyens adopteront la même attitude, mais je n'en suis pas sûr.
Soleil et chaleur, sur l'Angleterre, le masque est d'autant moins agréable à porter. Shanna a décidé de ne plus le mettre. Elle ne croyait pas en ces restrictions depuis longtemps déjà.
Je crois qu'on n'a jamais vraiment eu le choix. Je vis à Londres et à la seconde où les gens ont eu le droit de sortir à nouveau, il y avait des rassemblements partout. Impossible d'éviter la foule. Au moins, c'est cohérent maintenant avec cette décision du gouvernement. De toute façon, on le faisait quand même.
Il y en a un qui ne profitera pas de ce Freedom Day, c'est celui qui l'a décidé. Boris Johnson est confiné depuis hier. Il est cas contact d'un malade, son ministre de la Santé. Londres, Richard Place, France Inter.
Alors, on n'en est pas là en France. Programme un peu différent chez nous avec ce projet de loi relatif à l'adaptation des outils de gestion de la crise sanitaire. Voilà pour le titre officiel très technique de ce texte sensible sur l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. C'est une course contre la montre qu'entame le gouvernement. Objectif, adoption définitive d'ici ce week-end. Première étape donc à 18h30 ce soir avec la présentation en Conseil des ministres, puis discussion et vote à l'Assemblée dès mercredi. Ça s'annonce sportif, Claire Flochel, car l'opposition ne compte pas rester passive avec le dépôt de toute une série d'amendements.
Une atteinte à la liberté, voilà sur quoi s'accordent les parlementaires à propos du texte, quel que soit leur bord politique. Les Républicains devraient déposer un amendement sur le délai de la vaccination pour disposer du pass sanitaire. Le calendrier est trop précipité, selon le député du Vaucluse, Julien Aubert. Toujours chez LR, on devrait également contrer le fait que les enfants de plus de 11 ans doivent présenter, à l'instar des adultes, un pass sanitaire pour accéder à certains lieux. Du côté de la France insoumise, l'intégralité du texte pose problème. Et les amendements déposés vont être nombreux, explique Hugo Bernalicis, député insoumis du Nord.
Il y aura les amendements de suppression de l'extension du pass sanitaire, de la vaccination obligatoire. Et sur les amendements propositionnels, on va à nouveau demander le fait que les masques soient gratuits, le fait qu'on puisse avoir des moyens supplémentaires pour les hôpitaux. C'est toute une batterie d'amendements qui vont proposer une autre manière de gérer la crise sanitaire.
Du côté du parti Debout la France, son président Nicolas Dupont-Aignan n'évoque que des amendements de suppression sans rentrer dans le détail. Le député de l'Essonne parle d'un projet de loi grotesque qui va créer un état policier. Le gouvernement se trompe, dit-il, s'il pense que le texte va passer en une journée. décret. L'exécutif table sur une adoption définitive au plus tard ce dimanche.
Un examen au pas de charge donc, à condition aussi que le Conseil d'État valide tous les articles du texte, et notamment l'un des plus controversés, l'isolement obligatoire des cas positifs pendant 10 jours, avec possible contrôle par les forces de l'ordre. L'avis du Conseil d'État est attendu cet après-midi. Parmi les questions qu'on se pose encore et les précisions attendues en Conseil des ministres, la forme que prendront les contrôles du pass sanitaire dans les restaurants ou encore les centres commerciaux à partir du mois d'août. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Les professionnels préviennent déjà, si ces contrôles doivent être systématiques, ce sera mission quasi impossible.
Et oui, comment différencier tout d'abord le public d'un centre commercial, celui qui doit se rendre dans une pharmacie ou un commerce de première nécessité, un filtrage systématique avec d'éventuelles files d'attente, une sécurisation des différents points d'entrée d'un centre commercial est techniquement inenvisageable, souligne Gontran Turing, délégué général du Conseil national des centres commerciaux.
C'est une mesure qui est inapplicable. Ça nécessiterait de recruter plus de 5000 agents de sécurité en 15 jours pour les 350 centres commerciaux de plus de 20 000 m² qui seraient concernés. Et par ailleurs, ça représenterait un coût économique considérable. Le contrôle d'une entrée pour un centre commercial représente un coût de 30 000 euros par mois. Donc pour un centre qui a 10 entrées, ça fait 300 000 euros.
Même remarque du côté des restaurateurs. Comment envisager des contrôles systématiques sur chaque table, dans les terrasses, pour chaque client? Nous ne pouvons pas devenir et nous substituer à des auxiliaires de police, estime Thierry Grégoire à l'UMI, syndicat des professionnels de l'hôtellerie-restauration.
On est prêt à jouer le jeu pour faire un contrôle extrêmement rapide du pass. Maintenant, vous imaginez bien, quand bien même on aurait une table de 6 couverts, deux personnes qui n'ont pas le pass sanitaire, vous imaginez les problèmes que ça peut générer. Donc, puis surtout, il y a un sujet quand même d'importance, c'est qu'on ne veut pas que ce pass sanitaire soit quelque chose de définitif. Donc il faut y arriver, on veut que ce soit le moins contraignant possible, mais on ne veut surtout pas en plus se retrouver, nous, à arbitrer des conflits entre personnes chez nous, dans nos lieux, qui sont des lieux d'hospitalité, des lieux d'accueil et de partage. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour gérer ce type de conflit-là.
Les professionnels des secteurs concernés s'exposent en l'état jusqu'à 45 000 euros d'amende en cas d'absence répétée des contrôles à l'entrée.
Laurent Kramer, service économie de France Inter, merci Laurent. Quant à la vaccination obligatoire des soignants, mais aussi d'autres salariés en contact avec des publics fragiles, eh bien le débat est déjà engagé dans les établissements concernés. On n'attend pas le projet de loi pour sonder les équipes, comme dans cette colocation pour personnes âgées de Beur, près de Besançon, où s'est rendue Alice Cachaner.
L'équilibre de cette colocation pour personnes âgées aurait pu basculer. Sur l'équipe de 6 auxiliaires de vie, 2 opposés au vaccin ont songé à la démission. Elles ont fini par se résigner. Un soulagement pour la responsable de maison, Natacha Sauvage.
J'ai eu peur. Quand elles m'ont dit, écoutez, vous inquiétez pas, on reste, on va se faire vacciner. J'étais super contente, je voulais pas les perdre.
Si ces 2 auxiliaires ont accepté de se faire vacciner malgré leur réticence, c'est parce qu'elles sont passionnées par leur métier, explique Cécile.
On aime aider, on ne se sent pas capable d'abandonner les personnes. C'est une place quand même en or, j'ai la chance d'avoir un CDI. Je ne lâcherai pas mon travail, il faut que je paye les factures quand même aussi à la fin du mois.
Au sein du groupe AGV, seule la moitié des 300 auxiliaires de vie est vaccinée. Mais les annonces d'Emmanuel Macron ont fait bouger les lignes, se réjouit Nicolas Perrette, le cofondateur de l'entreprise.
J'ai plutôt l'impression que ça a débloqué les situations, parce qu'il y a quand même beaucoup de salariés qui nous ont dit qu'ils vont se faire vacciner parce que maintenant, ils n'ont pas le choix. On n'a pas les modalités de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, la loi va sortir. Nous, encore une fois, on n'est pas là pour punir. On a un objectif, c'est que les gens soient vaccinés. Si on peut les accompagner, les aider, on le fera.
Une vaccination du personnel qui rassure les locataires, comme Simone, 87 ans.
C'est une précaution pour éviter que ça se répande chez les gens, quoi, que ça s'arrête un peu pour tout le monde.
Avec les auxiliaires de vie vaccinés, Simone et ses amis s'apprêtent à retourner au restaurant, la première fois depuis le début de l'épidémie.
Vaccination obligatoire, passe sanitaire, projet de loi, on le disait, en vitesse accélérée, un peu sur le rythme du virus qui, lui, recommence à galoper. Ça y est, plus de 12 000 cas positifs hier et le retour d'images qu'on n'avait plus connu depuis plusieurs mois, des files d'attente pour se faire tester. Bonjour François Blanchecotte.
Bonjour.
Vous êtes le président du syndicat des biologistes. À défaut de vaccination, il faudra un test pour valider son pass sanitaire. D'ailleurs, dès mercredi pour certains lieux de culture et de loisirs. Est-ce qu'il faut s'attendre, est-ce que vous vous attendez, vous, à une explosion des demandes de tests dans les prochains jours, les prochaines semaines ?
Bah écoutez, elles augmentent régulièrement tous les jours. On le voit déjà l'explosion sur les bords de mer. On le voit aussi sur Paris. Donc on s'attend effectivement à avoir cette demande, en tout cas cette impatience pour pouvoir se faire tester. Parce que malheureusement, même si vous vous faites vacciner aujourd'hui, il y a un délai de 4 semaines incompressible le temps que vous obteniez votre passe sanitaire.
C'est plus tendu, vous le disiez, dans des zones touristiques, des zones littorales ?
Bah en plus, elles correspondent aux taux, vous avez vu, qui sont des fois supérieurs à 150, voire 200. Et donc, on est bien dans ces zones-là, qui sont hyper denses, hyper concentrées, où les gens sont sur place. Beaucoup ne sont pas vaccinés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour sortir, l'attente des précisions que vous citiez tout à l'heure, c'est très important parce qu'on va savoir dans quelle mesure les gens vont devoir se faire tester. Est-ce que c'est tous les 48 heures? Ça va être extrêmement compliqué pour nos collègues sur le bord de mer.
Alors, est-ce que la logistique dans vos laboratoires pourra suivre?
Alors, la logistique au niveau des matériels, des réactifs, on est habitué, on a eu des pics très importants, on y a fait face. Par contre, c'est vrai, c'est les bras. On a une inquiétude et un sujet vraiment réel parce que, évidemment, l'ensemble des personnels qui sont dans les laboratoires et tous ceux qui venaient nous aider de l'extérieur sont répartis aujourd'hui aussi sur les centres de vaccination. Un grand nombre de personnels aussi avaient posé leur congé. Il est difficile de refuser à ces gens-là qui ont travaillé depuis des mois pour nous de partir. Et donc, on a un vrai sujet d'inquiétude sur les bras qu'on veut avoir à disposition.
Ouais, sur les ressources humaines, est-ce que cela aura des conséquences sur les délais pour les résultats? Parce qu'aujourd'hui, les résultats, on les a très vite, hein, en 24 heures maximum. Est-ce que ce sera garanti, ça, cet été, jusqu'à la fin de l'été?
Alors, on peut garantir les délais, oui, tout simplement, parce qu'une fois que vous avez le prélèvement, les machines sont et les cadences sont programmées. La question, si vous voulez, c'est évidemment le nombre de préleveurs à notre disposition, et c'est ça qui va bloquer un peu le système, éventuellement, ici ou là, où il y a des endroits où il y a une demande extrêmement forte.
On sait qu'à terme, les tests dits de confort vont devenir payants. Ça devrait se calmer, du coup, devant vos laboratoires?
Bah écoutez, oui, déjà pour les étrangers, les non-résidents, vous savez qu'on les fait payer, mais ça n'évite pas évidemment les gens de venir se tester. Par contre, vous avez évoqué évidemment au mois d'octobre seulement, et on en parlera à ce moment-là, de la non-gratuité des tests de dépistage. On verra aujourd'hui, et à cette époque-là surtout, combien de gens seront vaccinés. Et je redis, c'est très important, il faut qu'il y ait une vaccination pour qu'on puisse diminuer la circulation du virus.
Merci beaucoup François Blanchecotte, à la tête du syndicat des biologistes. 13h12 sur France Inter, une chasse à l'homme est en cours dans les Alpes-Maritimes, plus précisément à Gréolières, c'est dans l'arrière-pays niçois. 150 gendarmes sont à la recherche d'un homme suspecté d'avoir tué une femme dans le département voisin du Var. Hier soir, quand les enquêteurs se sont présentés à son domicile pour l'interroger, il s'est retranché dans sa maison. Depuis, on ne sait pas s'il y est toujours ou s'il s'est enfui aux alentours. Le GIGN est sur place avec renfort de plusieurs hélicoptères. Le procureur adjoint parle d'un individu armé et dangereux. Et la gendarmerie vient à l'instant de lancer un appel à témoins parlant d'un individu de type caucasien mesurant 1m75 avec les cheveux bruns. Jusque-là, elle s'était limitée à des essais cliniques. Pour la première fois, l'entreprise française Carmat a vendu l'un de ses cœurs artificiels. Ça se passe en Italie, un patient implanté à l'hôpital de Naples. Toute première vente, donc, pour plus de 150 000 euros, prise en charge par les autorités italiennes. L'idée avec ce cœur artificiel, c'est d'offrir une solution provisoire aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque grave en attendant une greffe. Un logiciel qui s'infiltre dans votre téléphone pour y récupérer images, photos, contacts et même écouter les appels audio. C'est un cyberespionnage d'un nouveau genre que France Inter vous révèle depuis hier. Le fruit d'une enquête internationale menée par un consortium de journalistes, dont la cellule investigation de Radio France. Pegasus, c'est le nom de ce logiciel espion, conçu par une entreprise israélienne, théoriquement pour lutter contre le terrorisme. Mais vous l'avez compris, il a donc servi aussi à surveiller des militants, des opposants politiques, des journalistes. Ça se passe au Maroc, en Inde, au Mexique, mais aussi au sein même de l'Union européenne. Bonjour Jacques Monin.
Bonjour.
En l'occurrence, la Hongrie est aussi concernée.
Effectivement, on ne savait pas que la Hongrie avait acheté Pegasus, mais on pense que tout s'est joué en juillet 2017, en fait, lorsque Benjamin Netanyahou se rend en visite officielle à Budapest et que quelques mois plus tard, son conseiller aux affaires étrangères, lui, va en Israël. Alors, peu après, on découvre qu'en juin 2018, le téléphone du patron d'un groupe de presse indépendant hongrois qui s'appelle Zoltán Varga, va être ciblé par Pegasus. Et ça se passe juste après un dîner qui s'est tenu chez lui. Là, on est quasiment dans un film d'espionnage, vous allez voir. Ils sont 8 à table, c'est le soir. Tout le monde a son portable à côté. On discute d'un projet de création d'un observatoire de la corruption. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tous les numéros de ces convives vont ensuite être sélectionnés comme des cibles pour le logiciel espion, mais un proche du pouvoir va aller dire ensuite à Varga « Je sais que vous avez tenu ce dîner ». C'est dangereux, vous ne devriez pas le faire.
Donc un patron de presse et ses amis ont été ciblés, mais ils ne sont pas les seuls, Jacques.
Non, on a aussi recensé une dizaine d'avocats et puis 5 journalistes, dont 2 font partie d'un site d'investigation qui s'appelle Direct 36. On a pu, avec le consortium, analyser un de leurs téléphones et on a effectivement trouvé des traces d'une attaque de Pegasus. Et puis une autre cible pose question, c'est celle d'Adrien Baudouin, c'est un belgo-canadien qui a été arrêté après avoir participé à une manifestation contre le pouvoir, c'était en décembre 2018. Et bien là encore, qu'est-ce qu'on constate? Quelques jours après, son téléphone est attaqué.
Jacques Monin, cellule investigation de Radio France, merci Jacques. Hier soir, France Inter vous révélait que plusieurs journalistes français avaient aussi été espionnés par le Maroc. Des faits extrêmement choquants, réagit ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, promet de demander des enquêtes et des éclaircissements. Pour tout comprendre de ce projet Pegasus, rendez-vous sur franceinter.fr, on vous explique tout en 5 questions. Nouvelle arrestation d'un ancien membre des Brigades Rouges en France, on vient de l'apprendre, arrestation à la demande de l'Italie pour une tentative d'enlèvement terroriste remontant à 1982. Le bilan s'alourdit de nouveau en Allemagne, au moins 165 morts désormais dans les inondations dévastatrices des derniers jours. Le ministre de l'Intérieur est attendu aujourd'hui dans l'une des vallées les plus touchées, alors qu'une polémique monte sur une éventuelle défaillance des systèmes d'alerte outre-Rhin. 13h16, quand le Festival d'Avignon se déplace sur les routes de Vaucluse et du Gard, c'est un spectacle itinérant que je vous propose pour cette dernière semaine de festival, Mystère Tambourine Man, à mi-chemin entre théâtre et cirque, et le public adhère apparemment, gros succès populaire, Stéphane Capron.
Tous les soirs, Karel Prugnot, la metteuse en scène et son équipe posent leur tréteau dans un lieu différent et tous les soirs, le spectacle change d'aspect.
C'est un voyage, on rentre tous ensemble dans le train fantôme et puis on ne sait pas ce qui va nous arriver. Puis avoir un chien qui aboie, du vent qui souffle et des cartons qui s'envolent. Mais on fait avec et on vit cette expérience-là ensemble et ça c'est vraiment magique. Donc on est tous très heureux.
L'auteur Eugène Durif a écrit la pièce pour les 2 acteurs, 2 hommes orchestres dont Nicolaos, formidable clown et jongleur.
La situation du cirque c'est que les gens, on les voit au théâtre, on ne voit pas les gens. Et l'idée de l'arène c'est un espace impossible. Il n'y a pas d'issue. De là, l'angoisse de Denis, l'angoisse qui est la mienne.
Denis Lavant est parfaitement à l'aise dans cet objet poétique.
C'est un spectacle hybride. La plupart des spectacles que je joue, des solos souvent, j'ai besoin de me redire le texte avant. Là, c'est impossible. Chaque mot, chaque expression, chaque phrase est lié à un rapport extrêmement physique, à un travail d'échange, de précision musicale entre l'équilibre et la chute. La partition n'est pas que écrite, elle est inscrite dans l'espace.
Mister Tambourine Man est un spectacle baroque, un conte humaniste, un grand moment de rêverie à la croisée du cirque et du théâtre.
Mystère Tambourine Man jusqu'à la fin de la semaine, donc dans le Vaucluse et le Gard, puis en tournée dans toute la France. Une tournée sous le soleil, certaines régions l'attendaient impatiemment. Ça y est, cette fois, météo estivale pour tout le monde, du nord au sud. On va y revenir plus précisément dans un instant avec Sébastien Léas. Le soleil de retour, notamment dans le nord, après 2 semaines de pluie là-bas. Conséquence immédiate, les plages se remplissent de nouveau très vite. Reportage à Dunkerque, Louise Thoman.
Lunettes de soleil sur le nez, Émilie rentre tout doucement dans l'eau.
C'est frais, mais on s'adapte et ça fait du bien.
Venue de Villeneuve-d'Ascq, elle est ravie de pouvoir enfin sortir le maillot de bain.
J'en ai acheté 4, je me suis demandé est-ce que ça allait servir à grand-chose. Mais voilà, là on commence à ressortir petit à petit les petites robes, les maillots de bain, ça fait du bien au moral.
Zacharia et Alex, eux, foncent dans les vagues et ressortent tout sourire.
Il y a un passage compliqué, surtout pour nous les hommes, mais sinon ça va, elle est plutôt bonne.
Vous allez y retourner du coup?
Ouais, on est là pour profiter, hein, mais si elle est un peu fraîche, c'est pas grave, c'est dans la tête.
Alors, la première entrée elle est difficile, hein, mais une fois qu'on est dedans, ça va. Franchement, Ivan, je peux y retourner.
Les premiers rayons de soleil de l'été, c'est aussi le moment des petites grandes aventures pour cette maman parisienne et sa fille de 3 ans.
Les premiers bains pour Simone, son premier bain de mer.
Simone, c'était comment?
Bien, c'était pas trop froid.
Et Simone est courageuse, car l'eau pas trop froide est tout de même à 16 degrés et elle ne devrait pas beaucoup se réchauffer d'ici la fin de la semaine.
Le reportage de Louise Thoman, France Bleu Nord pour France Inter.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Ah oui, soleil et chaleur de retour pour tout le monde, vous confirmez Sébastien Léas?
Oui Alexis, ce soleil va ravir l'ensemble des chanceux qui sont en congé, mais vu les dernières semaines, cela va sans doute faire plaisir à tout le monde. On a quand même 2-3 choses à noter. Dans le ciel, au sud de la Garonne, les entrées maritimes s'effacent au profit du soleil. Quelques plaques pourront localement rester tenaces sur les plages entre les Landes et le Pays Basque. Sur les Hauts-de-France, le sud du Massif Central et la montagne Corse, des nuages vont progressivement apparaître. Les éclaircies resteront prédominantes cet après-midi, mais quelques averses sont aussi possibles. Et sur la Somme et le Pas-de-Calais, une évolution orageuse est même attendue. Le risque d'orage sera encore plus marqué sur le relief des Alpes, avec un ciel nettement plus chargé et menaçant. Ce risque va concerner l'ensemble des massifs entre la Savoie, le Var et les Alpes-Maritimes. Et puis évidemment, il fait chaud, mais c'est une chaleur sans excès et plutôt agréable dans l'ensemble grâce à la petite bise de secteur nord-est. Cet après-midi, prévoyez 26 à 33 degrés. Autour de la Méditerranée, ce sont le Mistral et la Tramontane qui soufflent et c'est là qu'on trouvera les maximales les plus élevées. Il fait déjà 33 degrés à Perpignan, Calvi et Antibes et même 36 degrés à Aubagne.
Eh bien, merci pour les bonnes nouvelles. Sébastien Léas, Météo France.